Seigneur, alléluia. Veuillez vous rasseoir. Veuillez vous rasseoir et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une fois de plus, le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde d'avoir des moments merveilleux. Oh, combien c'est magnifique de louer notre Dieu, d'adorer celui qui a donné sa vie à la croix pour chacun de nous. Je voudrais, frères et sœurs, que chacun de nous réalise que tous ces moments que le Seigneur nous donne sont des moments qui devraient être gérés de manière responsable, car c'est un privilège de pouvoir nous retrouver en son nom et de pouvoir le louer. L'éternité reste une priorité pour le Seigneur, n'est-ce pas? Quoi que nous fassions, n'oublions jamais que la chose la plus importante, ce qui préoccupe Dieu, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de notre arrière-plan, au-delà de notre position sociale ou autre, ce qui le préoccupe, c'est d'abord et avant tout notre éternité. Et s'il permet que dimanche après dimanche, nous venons dans ces lieux, c'est pour que nous comprenions, mes amis, que la vie est brève, que la vie est vulnérable, que tôt ou tard nous passerons dans l'éternité. Mais avant que ce jour-là arrive, il voudrait que nous puissions nous mettre en règle avec lui. L'éternité. Je me souviens, j'avais été invité par une église des Assemblées de Dieu de Belgique, en Belgique francophone. Je prêchais à la fin de la prédication, j'avais fait un appel, les gens se sont avancés. Et puis à la fin du culte, les gens venaient me saluer. Je vois un monsieur costaud, un vrai malabar, une base comme on dit, qui s'approche de moi dans les larmes. Je le regarde, malgré son âge, c'était vraiment un vrai baobab. Ah, il me regarde, il me dit, monsieur, vous êtes congolais? Je dis oui. Il dit, voilà, je voudrais vous parler. J'ai été touché par votre parole. Mon fils vient de se suicider. Est-ce que c'est parce que j'ai été dans votre pays? Écoutez-moi bien. Ah bon? Il dit oui. C'était au lendemain de l'indépendance du Congo. J'ai été parmi les mercenaires qui ont été envoyés au Congo et notamment au Katanga. Et nous avions fait beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Est-ce que c'est à cause de ces choses-là que Dieu me punit? Je le regardais, je le rassurais, je lui ai dit, écoute, Dieu pardonne. Alléluia. Peut-être que le suicide de votre fils n'a rien à voir avec votre passé, mais vous devez savoir une chose, qu'il n'y a que Dieu qui peut vous permettre d'avoir un passé aussi nickel. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver et te faire oublier ce passé terrible qui pèse encore sur toi. Voyez-vous, il avait oublié, mais ce jour-là, la parole l'a secoué. Et tout son passé remontait à la surface. Vous voyez? Nul n'est assez riche, a dit Oscar Wilde, pour racheter son passé. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Alors, saisissons cette occasion que le Seigneur nous donne dimanche après dimanche pour nous examiner par rapport à notre passé. Nous pouvons aujourd'hui choisir de fermer les yeux sur notre passé. Nous pouvons choisir aujourd'hui de faire taire la voix de la conscience qui nous interpelle, qui nous montre quelque part que notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Mais tôt ou tard, il faudra bien que nous quittions ce corps et que nous affrontions la terrible réalité de l'éternité. Mais avant que ce jour-là arrive, le Seigneur est bien présent. Alors, ne repars pas de ce lieu sans avoir pris la résolution de te mettre en règle par rapport à ton passé. Je sens qu'il y a des gens qui doivent aujourd'hui, pas demain, car le seul jour qui nous appartient, c'est celui d'aujourd'hui, se mettre en règle par rapport à leur passé. Vous ne pouvez pas racheter votre passé. Vous pouvez tout faire. Si vous avez tué des gens dans le passé, vous ne pourriez pas aller les chercher dans le séjour de mort pour les ramener ici sur terre. C'est trop tard, oui ou non? Mais, vous pouvez vous tourner vers l'homme de Galilée. Lorsque son sang passe sur ta vie, ton passé, si obscur soit-il, trépasse. Nous allons nous incliner avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier, demander au Seigneur de nous faire du bien ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. C'est un privilège énorme pour nous de pouvoir ouvrir le Saint-Livre Seigneur, et le méditer. Car nous savons que ta parole est tout ce dont nous avons besoin. Tu voudrais, Seigneur, que nous te ressemblions en toutes choses. Tu voudrais, Seigneur, que notre vie soit une vie qui te glorifie. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de recevoir constamment ta pensée. Car seule ta pensée, Seigneur, peut nous régénérer, peut nous restaurer, peut nous transformer, nous métamorphoser et nous rendre semblables à toi. Et nous rendre capables, Seigneur, de vivre selon ta volonté. Merci de poser ta main sur chacun de nous, de bénir cette parole. Seigneur, merci de bénir également ton peuple. Que chacun de nous reçoive cette parole comme étant la parole venant du Dieu créateur, mais aussi et surtout du Dieu rédempteur, celui qui a payé le prix de notre rachat à la croix de Golgotha. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 16, au chapitre 16 évidemment, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. C'est la fameuse déclaration de Pierre. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire de Jean, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Très bon appétit. Gloire au Seigneur. Je voudrais parler ce matin de la priorité absolue pour Dieu ici, sur cette petite terre. Parler de la préoccupation majeure de notre Créateur en ce qui concerne l'humanité. Car comme vous le savez, lorsque vous avez une responsabilité, quelle qu'elle soit, eh bien vous fixez des objectifs. Et vous essayez par tous les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Que ce soit ceux qui nous dirigent, eh bien ils ont des objectifs qui ont été établis pour pouvoir améliorer le bien-être de la population, pour pouvoir permettre à chacun de nous de pouvoir vivre de manière décente. Pour eux, cela est une priorité majeure. Pour un athlète, eh bien, sa priorité, c'est de gagner un jour la course. Et il va tout faire dans sa vie, il va s'imposer toutes sortes de disciplines pour que le jour où il va s'aligner dans un meeting, qu'il puisse arriver à décrocher la couronne. Il est donc important que nous comprenions aussi ce qu'est la priorité absolue pour Dieu lorsqu'il regarde l'humanité. Ce qui est la priorité, la préoccupation majeure pour notre Créateur. En regardant la révélation écrite, en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui un jour ont eu à le rencontrer, eh bien nous pouvons réaliser que ce Dieu-là, eh bien est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu, et nous l'avons chanté, c'est un Dieu dont le règne est éternel. Dieu est une réalité vivante, mes amis. Il est plus qu'un concept théologique ou philosophique. Dieu est une réalité, alléluia. Gloire à Dieu. Ce Dieu-là habite son ciel de gloire. Il est environné des chérubins, de toutes sortes de créatures sublimissimes, toutes sortes d'anges, toutes sortes de chérubins qui se prosternent à chaque instant devant lui pour lui rendre la gloire, la majesté, la splendeur. Esaïe nous dit qu'il a vu, alors qu'il était au temple, le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il a vu des êtres angéliques se prosterner devant ce Dieu-là et proclamer sa sainteté. Saint, saint, saint. Et Adonai, le Dieu d'éternité. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oui, ce Dieu-là habite, mes amis, son royaume. Il est rempli, environné de toutes sortes de magnificence, de splendeur. La Bible nous dit qu'il est revêtu de lumière. Alléluia. Et son règne n'a pas de fin. Son royaume est un royaume éternel. Mais nonobstant sa grandeur, son immensité, malgré ses royaumes qui va au-delà du temps, ce Dieu se préoccupe de notre petite terre et de l'homme, si fragile, si vulnérable, l'homme dont la vie est brève, mais cependant l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Et sa préoccupation par rapport à cet homme, et ce, quelle que soit sa culture, et ce, quelle que soit, mes amis, sa condition intellectuelle, morale ou autre, c'est que cet homme-là puisse un jour le rencontrer et faire l'expérience que sa parole appelle la nouvelle naissance. En d'autres mots, Dieu est préoccupé par la construction de son Église ici-bas. Amen. Alléluia. La préoccupation majeure du Seigneur, c'est d'abord et avant tout d'aller chercher les hommes et les femmes à travers le monde entier, de les sauver, de les délivrer de toute emprise du mal et de les introduire dans son Église. Ça, c'est sa préoccupation majeure. Car il aime tous de la même manière. Il nous aime tous de la même manière. Dieu n'est pas là pour élever une ethnie au détriment d'une autre. Dieu n'est pas là pour aimer un peuple plus qu'un autre, mes amis. Dieu n'aime pas plus un pays qu'il aimerait moins un autre. Il nous aime tous de la même manière. Et nos différences ethniques, culturelles, raciales, linguistiques ou autres, lui importent peu. Car l'homme a une dignité. Car l'homme est en son image. L'homme a une destinée éternelle. Et Dieu fait tout pour que cet homme soit sauvé. Et l'Église est l'entreprise qu'il est en train de bâtir ici-bas. Et Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église. Et rien, et je pourrais ajouter absolument rien, ne pourra prévaloir contre elle. Ce passage de Matthieu 16, verset 18, est un passage que nous connaissons. Le Seigneur vient de poser la question à ses disciples. Et voilà que Simon-Pierre reçoit la révélation de la part du Père. À la question de savoir qui il était, les disciples disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres encore tel ou tel autre prophète. Et nous retrouvons encore aujourd'hui la même attitude vis-à-vis du Seigneur. Pour certains, ce n'est qu'un prophète. Voyez-vous, le grand prophète. Pour d'autres, c'est un grand maître. Dans certaines confréries mystiques, Jésus, c'est un grand maître qu'il met sur le même pied d'égalité que d'autres maîtres. Pour d'autres, c'était un révolutionnaire. Grâce à lui, la condition de la femme a été améliorée. Il avait des idées révolutionnaires. Et oui, il n'a pas hésité à aller à contre-courant, mes amis. Il est venu avec des valeurs qui étaient aux antipodes, mes amis, des valeurs de l'époque et même des valeurs d'aujourd'hui. Donc on peut avoir toutes sortes d'opinions par rapport au Seigneur. Mais il se tourne vers ses disciples, mais vous alors, qui dites-vous que... C'est là que Paul reçoit la révélation, Pierre plutôt. Et lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, qu'il va faire ses déclarations magistrales relatives à son Église, déclarations qui nous placent d'emblée devant l'importance que le Seigneur attache à son Église. Et quand je parle de l'Église, et quand il parle de bâtir, de construire son Église, il ne parle pas d'une dénomination, mes amis. Car dans la réalité, ou du moins dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, on a vu toutes sortes de mouvements ou de groupements religieux se développer autour et alentour de l'Église de Jésus-Christ et qui se réclament tous être l'Église de Jésus-Christ. Mais l'Église dont il est question, C'est celle dont il est le chef. Alléluia. C'est une réalité spirituelle. Et c'est ça qui le préoccupe plus que toute autre chose. Et la plus grande élévation qu'un homme puisse connaître, c'est d'un jour d'être une pierre vivante dans cette église-là. Alléluia. La plus grande élévation, c'est lorsque le Seigneur, par son esprit, va chercher une pierre dans la carrière mondaine, pour la tailler, pour la rendre vivante et l'introduire dans son église. À ce moment-là, la personne commence à vivre véritablement. Elle devient un enfant de Dieu. Elle a désormais accès à toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple. Jésus le Fils de Dieu, celui par qui, pour qui et de qui sont toutes choses, veut bâtir son église et est en train de bâtir son église depuis la grande Pentecôte que nous trouvons dans le livre des Actes. Celui qui est le chef de cette église, celui qui en est le bâtisseur, le possesseur, l'architecte, celui qui fait tout. Mais cette parole qui nous montre que Jésus est le chef de l'église, cette parole, mes amis, met aussi en évidence une vérité qui est souvent ignorée, qui est souvent mise de côté. Car à chaque fois que nous nous tournons vers ce passage, nous regardons d'abord et avant tout à la première partie de la déclaration du Seigneur concernant évidemment la construction de son église. Et nous oublions la deuxième partie. Et c'est sur cette partie-là que j'aimerais attirer votre attention. Voyez, qu'est-ce qu'il dit dans la deuxième partie? Je bâtirai mon église. Et puis il ajoute, et les portes du séjour des morts, les portes du Hadès, littéralement, ne prévaudront point contre cette église. Ah! Donc, non seulement il annonce qu'il va bâtir son église, non seulement il nous montre sa priorité pour cette humanité, mais en même temps, mes amis, il nous montre le contexte dans lequel cette église allait être bâtie. Il nous montre, mes amis, quels seraient les problèmes, les difficultés auxquelles cette église serait confrontée, alors que lui serait en train de la bâtir. Les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. J'aurai l'occasion de revenir sur cette expression. Et si le Seigneur le permet, nous pourrions avoir un séminaire là-dessus. Car il y a à boire et à manger. En ce qui concerne cette réalité, les portes du Hadès, les portes du séjour de mort, qui ne vont pas prévaloir contre, en d'autres mots, qui ne va pas prendre de l'ascension sur l'église de Jésus-Christ. En d'autres mots, ces portes du Hadès qui vont tout faire pour empêcher le Seigneur de bâtir son église. Mais Jésus annonce en même temps, non seulement il plante le décor, il fixe le contexte dans lequel il allait bâtir, mais en même temps, il nous laisse une bonne nouvelle. Rien ne prévaudra contre elle. Alléluia. Rien ne prévaudra contre elle. Nous sommes ici dans un contexte de bataille et de combat spirituel. Le Seigneur nous montre qu'il allait bâtir son église dans un contexte très difficile. C'est parce que nous avons ignoré cette vérité que nous nous sommes laissés, dans la plupart des cas, distraire par toutes sortes de problèmes au sein de l'église, problèmes qu'on a toujours mis sur le dos soit de la chair. Je dis, bon, vous savez, l'église, c'est pas une famille constituée d'hommes et de femmes parfaits. Nous avons tous des faiblesses, oui ou non? Nous avons tous des choses que nous traînons, des casseroles que nous traînons. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaye de voir ce qui serait à la base de tout ça, et on arrive à la conclusion que, bon, c'est dû au fait qu'on a affaire à des moi surdimensionnés. Hein? Les gros, l'orgueil, l'arrogance, etc. Oui, ça, c'est aussi un problème. Mais on a ignoré que le Seigneur lui-même a dit qu'il allait bâtir son église dans un contexte de bataille spirituelle. Et derrière toutes ces attaques, il y a toujours la main impie, la main funeste des puissances des ténèbres, de Satan qui va tout faire. Nous reviendrons là-dessus. Donc depuis son institution, Depuis que le Seigneur bâtit son église ici-bas, cette église, comme je viens de le dire et comme lui-même le dit, dont il est le maître, dont il est le chef, eh bien cette église-là poursuit sa marche triomphante. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, cette église a connu toutes sortes de problèmes. Mais cette église, eh bien, a continué sa marche. Car il n'y a rien qui puisse l'arrêter, mes amis. Il n'y a aucun pouvoir politique qui puisse arrêter Jésus dans la construction de son église. Il n'y a aucun pouvoir religieux, si intégriste soit-il, si obscurantiste soit-il, qui puisse arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. Car le bâtisseur de l'église a dit, je bâtirai mon église. Il est affirmatif, il est déclaratif, je bâtirai. Rien ne prévaudra contre elle, même pas les portes du séjour des morts. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle à nous remplir de joie et d'assurance. Que quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, celui qui est avec nous s'appelle le vainqueur d'éternité. Celui qui est avec nous est celui qui a vaincu une fois pour toutes. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. En Europe, nous travaillons dans des conditions très difficiles. L'Europe s'athéise à un rythme d'enfer. Voyez-vous, tout est fait pour décourager les gens à prêcher, annoncer l'évangile. Pour prendre le cas de la Belgique, il y a en Belgique une loi qui condamne le prosélytisme. C'est-à-dire quelqu'un peut vous traîner devant la justice simplement parce que vous avez essayé de le gagner à Christ. Ah oui, le procureur peut vous poursuivre pour délit de prosélytisme. Voyez-vous? Eh bien, vous pensez que cette loi a été inspirée par Dieu? Alors que Jésus nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle à, même à la Belgique. Il a fallu se faire violence. Il faut encore se faire violence. Car vous avez des forces hostiles à l'évangile. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous n'osez plus prendre position par rapport à l'homosexualité. Vous êtes tout de suite taxé d'homophobe. J'ai fait une fois la réflexion à quelques hommes politiques. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Dans ce pays qui se présente comme étant le champion de la démocratie. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils osent nous donner des leçons de démocratie. Alors que c'est un pays dirigé par quelqu'un qui, majoritairement parlant, démocratiquement parlant, il n'aurait pas dû être là Premier ministre. Je vous l'ai dit. C'est par un mécanisme de politique mis sur pied que finalement, il est arrivé à être le Premier ministre. Enfin, je lui ai dit, dans ce pays, on peut insulter Christ. On peut traîner son honneur dans la boue. Voyez-vous? On peut cracher sur lui sans que l'État vous inquiète. Il y a la loi qui réprime l'homophobie. C'est vrai qu'il y en a qui vont très loin. Nous condamnons cela. Dieu aime les homosexuels, comme il aime les impudiques, comme il aime les adultères. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Ah! Vous pouvez demander pardon si c'est votre cas. Il vous aime. Comme il aime les idolâtres. Mais, il est le péché. J'ai dit, dans ce pays, il y a une loi qui réprime l'islamophobie. Voilà. Oh tiens, il a eu un comportement islamophobe. Eh bien, vous passez en correctionnel. Voilà. Mais, il n'y a rien pour dénoncer l'homophobie. On peut insulter le Christ. On peut traîner son honneur dans la boue. Et j'ai dit, vous trouvez normal? C'est ça la démocratie? Ah oui, mais parce que l'Église a toujours régné. J'ai dit, non, ça c'est une fausse excuse. Vous devriez aussi légiférer là-dessus une loi qui réprime la christophobie. Voilà. Vous insultez Christ, je vais devant le tribunal, je vous accuse. Donc, tout est fait pour empêcher... Le Seigneur a construit son église. Mais il n'y a rien, mes amis. Il n'y a rien qui puisse empêcher le Seigneur de construire son église. Vous savez, un homme politique de ce pays a dit à la tribune des Nations Unies que mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, le fruit finit toujours par... Rien ne peut résister à l'ouragan du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Seigneur construit son église. Et ceci devrait nous motiver. Mes amis, à annoncer, à proclamer cette parole, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Donc cette église-là évolue dans un contexte qui lui est hostile, un contexte de guerre spirituelle contre des puissances des ténèbres, contre toutes sortes de pouvoirs politico-religieux, mystico-philosophiques et autres. Mais cette église est appelée à demeurer dans la victoire. Alléluia. Il y a eu dans l'histoire de l'église deux moments importants qui sont pour nous des modèles, mais en même temps des témoignages quant à la manière dont nous devrions agir alors que nous sommes membres de l'église du Seigneur. En résumé, nous trouvons dans la parole de Dieu, eh bien, deux contextes et deux contextes différents par rapport à l'église. Et ceci sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Le premier contexte, c'est celui des Actes 8. Nous n'allons pas tout lire. Eh bien, il nous est dit qu'aussitôt que l'église a commencé, l'ennemi aussi s'est levé et s'est mis à persécuter l'église. S'est mis à persécuter tous ceux, d'abord ceux qui prêchaient la parole de Dieu, mais aussi à empêcher que ceux qui n'étaient pas convertis se tournent vers le Christ. Il y a d'abord eu, dans l'histoire de l'Église, une période que j'appellerai la période de persécution et de tribulation. Dès le départ, l'ennemi a commencé à s'acharner contre l'Église. Dès le départ, l'ennemi a tout fait, mes amis, pour décourager les disciples de Jésus en ce qui concerne l'annonce et la proclamation de l'Évangile éternel. La persécution de pouvoir religieux. Le pouvoir politique de Rome, de pouvoirs de tout genre, se sont ligués contre l'Église. Voyez-vous? Et là, nous voyons le premier sang d'un chrétien, du moins un chrétien dont la Bible nous parle, celui d'Étienne. Il est mort à cause de sa foi, oui ou non? Alléluia. Et puis tant d'autres sont tombés. Et à travers toute l'histoire des hommes, beaucoup d'hommes et de femmes vont verser leur sang à cause de Jésus. Et à l'heure où je vous parle, il y a des régions, mes amis, des régimes totalitaires, des régimes intégristes, des régimes religieux obscurantistes qui persécutent tous ceux qui acceptent Jésus, qui croient en lui. Vous suivez l'actualité? Il n'y a pas quelque temps, on a brûlé des églises au Pakistan. Ça, c'est monnaie courante. Au Moyen-Orient, les chrétiens sont de plus en plus minorisés. Et pourtant, c'est là que le christianisme a commencé. Tout est fait pour les chasser, mes amis, du Proche et du Moyen-Orient. Et personne ne parle. Oui, personne ne parlera, car c'est le même esprit. C'est là que nous devrions être solidaires par rapport, mes amis, à nos amis qui sont persécutés. Dans tous ces régimes-là, priez pour eux. Dans les assemblées de Dieu, nous avions en Belgique un dimanche réservé à l'église persécutée. Et tous les pasteurs devaient faire un message en rapport avec la persécution. Et nous prions pour que Dieu soutienne son peuple. Aujourd'hui encore, mes amis, dans certains pays, lorsque quelqu'un se lève pour confesser Jésus, eh bien, il se lève pour mourir. Eh bien, ce n'est pas étonnant, car Jésus a dit, je bâtirai mon église et rien ne prévaudra. Eh bien, les portes du séjour des morts font tout pour décourager. Dans cette période de persécution, l'église l'a connue et l'église la connaîtra. Voyez-vous, un peu partout, des hommes et des femmes sont persécutés à cause de Jésus. Ça fait partie, mes amis, de la réalité de l'église. Nous ne devrions pas croire que quelque part l'ennemi serait devenu un tout petit peu plus fort au point d'arrêter l'œuvre de Dieu. Non. L'œuvre avance, mais dans la plupart des cas, dans le sang des martyrs. D'ailleurs, un père de l'Église a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Là où un chrétien tombé à cause de sa foi, 10 se levaient pour confesser que Jésus est Seigneur. Dans notre pays aujourd'hui, nous pouvons circuler librement, aller annoncer la parole de Dieu un peu partout, sans être inquiétés. Mais on oublie souvent qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris le risque le siècle dernier et avant ça, de venir dans notre pays pour nous annoncer l'Évangile. Il y en a qui ont été mangés par des tribus cannibales ou anthropophages. Voyez-vous? Ils ont laissé leur vie. Mais avec le temps, leur sang portait du fruit. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. Alléluia. Oui, l'Église connaîtra toujours la persécution. Et d'ailleurs, plus nous nous approcherons de son enlèvement, plus l'ennemi fera tout pour empêcher à l'Église d'avancer et de gagner de plus en plus d'âmes à Christ. Empêcher l'Église de piller l'enfer pour enrichir le ciel. Il fera tout. Mais Dieu étant beau, l'Église ne connaît pas toujours de contexte de persécution, de contexte de tribulation, de toutes sortes d'épreuves. Il y a eu, et il y a, il y en aura, des périodes où l'Église jouit d'une certaine accalmie, où connaît la paix. C'est le cas du contexte de Acte 9, où il nous est dit, au verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée. Ah. » Après la persécution, après autant de sang versé, le Seigneur a permis dans sa grâce que l'Église jouisse, connaisse un contexte de paix dans la Galilée, dans la Judée, dans la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance, par le soutien du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a eu des périodes d'accalmie, des périodes où l'Église a connu la paix. Et je pourrais dire que c'est la période que nous connaissons aujourd'hui. Voyons. L'État ne sévit pas parce que vous confessez que Jésus est Seigneur. D'ailleurs, je trouve même que l'État est très bon. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui, en réalité, devraient être derrière les barreaux. Tous ces gens qui profitent de la misère des gens pour les manipuler. Ces diseurs de bonne aventure qui font plus de dégâts qu'autre chose. Des escrocs, voyez-vous, des voleurs. Mais ils viennent tous avec le nom de Jésus. Dieu m'a dit. Ils viennent tous avec des prophéties. Et comme nous aimons, de par notre arrière-plan, tout ce qui est mystique, entre guillemets, oh là là, ces prophéties sont les bienvenues. Et ça va dans tous les sens. Dieu m'a dit que c'est toi qui vas être ambassadeur en Chine. Ah, c'est très bien. Et après, 6 mois après, c'est quelqu'un d'autre. On va revoir le même prophète, il dit, je n'avais pas assez intercédé. Oh, comment? Vous pensez que Dieu a besoin de ton intercession pour accomplir la parole qu'il a donnée? Ne laissez pas les gens vous distraire. Voyez-vous? Oh, Dieu m'a dit que vous allez être ministre. Comme je l'ai dit une fois, l'homme à qui on dit ça, c'est un adultère diplômé. Vous pensez qu'il a besoin d'entendre qu'il va être nommé ministre? Non. Il a besoin de savoir que Dieu l'aime, certes, mais qu'il doit se repentir. Mais non, que Dieu puisse lui donner l'occasion d'avoir une responsabilité ministérielle, à lui soit la gloire. Nous nous réjouirions qu'un frère puisse avoir une responsabilité. Mais Dieu parlera d'abord pour son âme. Alléluia. Donc, de contexte de paix, où l'Église avance, comme ici chez nous, nous pouvons annoncer l'Évangile. Voyez-vous, dans certains pays, ce n'est pas le cas. Si vous allez dans des pays islamistes, vous n'oseriez même pas prononcer le nom du Seigneur. Tout de suite, vous avez la milice de l'État ou du régime en place qui vient vous interpeller. Mais ici, nous jouissons de la paix, de la liberté, de pouvoir nous exprimer. Et par rapport à cela, mes amis, nous devrions dire merci au Seigneur. Quelquefois, nous ne voyons que le mal. Oui. Il y a des gens qui ont des yeux qui ne voient que le mal. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir une intelligence qui nous permette aussi de voir que oui, le corbeau est noir, certes, mais il y a quand même une tache blanche. Alors on voit tout en noir, mais non. Vous circulez librement. Alors, voilà, nous annonçons. Il n'y a personne qui s'est dit, hey, pasteur, attention, il y a des militaires dehors. Non, on va sortir et tout ça. Donc, nous connaissons cette période ici chez nous. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais ça fait partie de la réalité de l'Église. Mais ce que je veux dire, mes amis, c'est que dans les deux cas, que ce soit un contexte de persécution, que ce soit un contexte de paix, l'Église est appelée à s'appuyer et à dépendre uniquement de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Amen. Car elle est confrontée à toutes sortes de dangers. Le premier danger en cas de persécution, c'est quoi? C'est le risque d'abandonner. Combien ont abandonné? On a vu de jeunes gens à l'époque où nous étions encore à la jeunesse venir au Seigneur et puis les parents, ne connaissant pas très bien la borne ou parce que tant ceci ou cela, ont tout fait pour que ce jeune-là ne continue plus à venir ici. Il y en a qui se sont relâchés, il y en a qui ont tourné le dos, mes amis, à la foi, et qui ont préféré rester en paix avec les parents que plutôt de continuer avec Jésus et en même temps vivre dans un contexte de disputes permanentes. Vous voyez? Donc, dans un contexte de persécution, il y a un risque, c'est d'abandonner. Combien ont abandonné? Je ne sais pas si c'est hier que j'ai péri, je crois que c'est mon épouse qui m'a partagé ça. Un missionnaire qui est allé prêcher quelque part, il a tellement prêché, personne ne s'est converti, il s'est dit, mais tout compte fait, ce que ces gens n'auraient pas raison. Je leur dis de croire en Jésus, mais ils sont heureux. C'est peut-être moi qui suis en tort. Il a abandonné la foi. Un contexte difficile. Voyez-vous? Donc, nous courons tous ces dangers d'abandonner à cause de la persécution, à cause des épreuves. Mais mes amis, persévérez, car s'il y a une nuit, eh bien cette nuit-là a toujours une durée. Tôt ou tard, le jour se lèvera. Oh, tu es dans un tunnel noir. Eh bien, ce tunnel ne va pas durer éternellement. Tant que tu restes avec Jésus, eh bien, un jour, tu sortiras du tunnel. Pour le moment, il sait pourquoi il permet ce tunnel. Il veut te travailler. Car pour lui, ce que tu es vaut plus que ce qu'il pourrait te donner. Que ce soit sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan financier ou autre. Dieu est plus préoccupé par notre bien-être éternel, mes amis, que par notre bonheur temporel et éphémère. Ça, c'est le danger. Et les premiers chrétiens ont été confrontés à ces dangers. Saul de Tarse était un de ceux-là qui se levait pour traquer les chrétiens, pour les persécuter. Mais l'Église a tenu bon, a tenu ferme. Voyez-vous? Mais il y a aussi le contexte de paix et d'accalmie. Là aussi, mes amis, il y a des avantages. Comme il y a des désavantages. En période d'accalmie, lorsque tout va très bien, eh bien l'Église court le risque de se compromettre, de penser que le monde a changé. Voyez-vous, comme quelqu'un l'a dit, le monde est plus dangereux lorsqu'il vous sourit que lorsqu'il vous persécute. Voyez-vous? En période d'accalmie, l'Église, dans la plupart des cas, tourne le dos au Seigneur. Parce qu'elle n'est plus persécutée, alors elle n'a plus besoin de s'appuyer sur Christ. Elle va chercher le soutien à gauche, à droite, dans le monde, auprès de ceux qui ont le pouvoir religieux, le pouvoir politique, le pouvoir économique, médiatique ou autre. Mais peu importe, mes amis, avant de terminer, peu importe le contexte, l'Église de Jésus, celle qu'il est en train de bâtir, dont il est le chef, le maître, le possesseur, l'architecte, l'ingénieur, cette église-là, est appelée à s'édifier sur le roc que Jésus. Elle est appelée à marcher dans la crainte du Seigneur. Elle est appelée à progresser par le soutien et par l'assistance du Saint-Esprit. En d'autres mots, cette église-là, peu importe son contexte, qu'elle soit persécutée ou qu'elle vive dans un contexte où les autorités politiques lui sont favorables, l'église doit toujours savoir qu'elle est une entreprise spirituelle, qu'elle a une seule autorité, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'elle est appelée à être conduite, non pas par l'intelligence des hommes, non pas par la sagesse des hommes, non pas par tel ou tel autre pouvoir, même religieux, mais elle est appelée à être conduite par le Saint-Esprit. C'est dans la mesure où elle est conduite par le Saint-Esprit qu'elle demeure dans la victoire. Alléluia. Il y a eu des tentatives. Vous savez, comme Winston Churchill l'a dit autrefois, oublier l'histoire, c'est accepter son retour. L'Europe a essayé de trouver un terrain d'entente entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Voyez-vous, on a voulu instaurer le royaume de Dieu ici sur terre. Ça a conduit à toutes sortes d'abus et de problèmes. Mais curieusement, dans nos pays qui apprennent la démocratie, il y en a qui pensent qu'un jour le Congo sera complètement chrétien. C'est une utopie. Mais oui. Et puis, quand vous dites le Congo sera chrétien, ça veut dire quoi? Vous allez mettre dehors tous les musulmans? Hein? Hein? Le Seigneur n'est pas là pour bâtir un pays. Il est là pour appeler les hommes de tout le pays à venir entrer dans l'Église. Alléluia. Donc, elle doit dépendre entièrement, totalement du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui fait sa force. Et pour terminer, deux exemples. Dans le contexte de persécution, l'Église est restée fidèle au Seigneur. Ils ont annoncé l'Évangile. Philippe est arrivé dans une ville de la Samarie. Il a annoncé l'Évangile. Il y a eu beaucoup de miracles, oui ou non? Les gens se sont convertis. Les paralytiques ont marché. Des démoniaques ont été délivrés. Oh, gloire au Seigneur. Dieu n'a pas agi parce qu'il y avait la persécution. Dieu a agi parce que l'Église lui est restée fidèle. Dieu a agi parce que l'Église a continué à demeurer attachée à Christ et à annoncer Jésus sans compromission. Et le miracle, eh ben, on continue à accompagner l'Église. Et dans le contexte de paix, toujours au chapitre 9, là, des Actes, il nous est dit que l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. Et Pierre, dans ce contexte d'accalmie, dans ce contexte de paix, dans ce moment où finalement les pouvoirs religieux, politiques et autres étaient devenus favorables à l'Église, il est descendu, il a prêché la parole de Dieu. Et dans le même contexte, Dieu a accompli des miracles. Pensez à Énée, si vous lisez dans ce chapitre 9, c'était un homme paralysé pendant 8 ans. Pierre le regarde. Pierre lui dit, Énée, le Seigneur te guérit. Voyez-vous, il lui dit, lève-toi toi-même, arrange ton lit. Et aussitôt, cet homme se leva et expérimenta le miracle de la guérison. Dans un contexte de paix, oui ou non? Oui ou non? Il continue. Quand on continue le récit, c'est la résurrection de Dorcas ou Tabitha. Elle est décédée. Les gens se disent, non. Nous avons appris que Pierre serait dans le parage. Nous n'allons pas l'enterrer. Nous croyons au Dieu de miracles, au Dieu qui ressuscite les morts. Il a fait à l'époque de Lazare. Nous ne voyons pas pourquoi et comment il ne le ferait pas aujourd'hui. Et quand Pierre arrive, Pierre va ressusciter Tabitha simplement au nom du Seigneur Jésus. Donc dans les deux cas, eh bien, les miracles ne sont pas devenus une réalité parce que l'Église était en paix. Les miracles ont accompagné l'Église parce que l'Église est restée attachée à celui qui l'a bâti. Alléluia! À celui qui en est le chef. Mes amis, peu importe le contexte pour terminer, ce que le Seigneur attend de chacun de nous, en tant que membre de l'Église, c'est que nous restions soumis à lui. Que nous soyons persécutés, prenons courage. Il a vaincu et en son nom nous vaincrons. Alléluia! Que ce soit un contexte de paix, rendons-lui grâce. Mais ne courons pas les dangers de nous compromettre au point de croire que finalement, comme tout va bien, tout le monde est pour nous, alors ça sert à rien de jeûner, ça sert à rien de prier, parce qu'après tout, pour ouvrir une église, on n'a pas besoin d'autorisation comme de l'autre côté en Occident. C'est pas facile, hein? Il y a toute une démarche. Mais ici chez nous, nous pouvons construire. Nous pouvons acheter des parcelles et construire des églises. Alors le danger, c'est de se dire, bon, de toute façon, on n'a plus besoin de prier, il suffit simplement d'aller voir le bourgmestre, il fréquente notre cellule. Nous parlons en privé autour d'une chikwang, ça s'arrête là. Et les ordonnances, comment, les autorisations sont signées. Donc ça ne sert à rien de... Vous voyez le danger. Donc que ce soit dans un contexte de persécution, que ce soit dans un contexte de paix, l'Église est appelée à demeurer en Christ, à rester soumise à son autorité et à se laisser conduire par son Saint-Esprit. Si nous agissons de cette manière, nous continuerons à marcher, quel que soit le contexte. Dieu seul sait ce que nous serons dans 20 ans, dans 30 ans. Peu importe, mes amis, le contexte politique, social, économique, médiatique ou autre, si nous restons fidèles, nous continuerons à avancer. Alléluia. Amen. Car lui qui construit l'Église s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Acclamons-le. Gloire à Dieu. Je bâtirai mon Église et rien ne prévaudra contre elle. Nous allons incliner nos têtes. Le Seigneur a fixé le cap. Il va bâtir son Église. Quoi que l'ennemi fasse, quoi que le monde fasse, eh bien, il poursuivra son œuvre de construction. Il poursuivra son œuvre de salut, de régénération. Il continuera à agir sur cette terre. Mais pour autant que l'Église lui reste fidèle, l'Église reste attachée à lui. Deux contextes par rapport à l'Église de Jésus. Dans quel contexte es-tu? Es-tu persécuté à cause de ta foi? Le découragement te visite-t-il depuis que tu es environné par toutes sortes d'épreuves? Il y a là comme une tentation, mes amis, de vouloir abandonner. Mais ce matin, le Seigneur t'a dit, tiens bon, j'ai vaincu, à mon nom tu vaincras. Ou alors tu es dans ce contexte de paix, où tout baigne dans l'huile. Alors ne cours pas le danger, mes amis, de te compromettre. Reste fidèle, sois le sel de la terre. Sois la lumière du monde. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à te rester fidèle, et ce, quel que soit le contexte. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec nous. Tu nous as fait la grâce de faire partie de ton Église, de par notre nouvelle naissance. Et maintenant que nous faisons partie de ton Église, aide-nous à rester fidèles, fidèles à ta parole, à nous soumettre à ton autorité, Seigneur. Ô Dieu, tu es celui qui a promis que tu bâtiras ton Église, quelles que soient, Seigneur, les manœuvres de la part de l'ennemi, quelle que soit l'attitude du monde, ton Église est appelée à triompher et à avancer jusqu'au jour de l'enlèvement. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et merci aussi. Merci aussi, Maître, dans ce contexte de recueillement, de poser ta main sur ces paniers, Seigneur, qui vont circuler. Nous voulons que cette offrande soit l'expression de notre cœur, que ce soit une opportunité pour nous de te dire merci pour tout ce que nous sommes, mais également pour tout ce que nous avons. Car ce que nous sommes et ce que nous avons n'est que le produit de ta grâce envers nous. Bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, ces paniers, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you.